Le chaos engineering est une pratique, un état d'esprit, une attitude, bien avant d'être un ensemble d'outils. Simuler une panne, un incident ou l'absence du meilleur élément d'une équipe est facile. L'outillage ne vient qu'ensuite, lorsqu'il s'agit d'automatiser toutes ces tâches. Mais l'outil doit-il s'arrêter là, ou doit-il aller plus loin pour permettre de réellement capitaliser sur les conséquences d'un problème, aussi bien pour les devs que pour les ops, mais aussi pour observer l'impact qu'il entraîne au niveau des utilisateurs d'un service. Dans cet épisode, je reçois Sylvain Elguarche. Sylvain est cofondateur et CTO de Chaos IQ et nous discutons ensemble de cette chaîne de valeur que constitue le Chaos Engineering. Merci à Data Essential d'aider à donner vie à ce podcast. Data Essential, votre partenaire de voyage vers le cloud. Sylvain, bonjour, bienvenue à ce podcast.
Bonjour, merci de m'avoir. Merci Stéphane.
Alors, je suis très content de te recevoir pour discuter de Chaos Engineering aujourd'hui. Alors, j'ai un fait pour le Chaos Engineering. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans un autre épisode sur un peu les concepts, la culture, la philosophie derrière le Chaos Engineering. Mais pour partir sur de bonnes bases, je vais quand même te proposer de donner ta propre définition du Chaos Engineering.
Oh, c'est compliqué. Mais pour moi, le Chaos Engineering, au-delà du terme qui est catchy, c'est l'idée d'incertitude et d'accepter cette incertitude. Voilà. Voilà, Chaos Engineering, c'est de dire rien n'est figé, rien n'est figeable. La seule chose qu'on puisse faire, c'est accepter que les choses soient incertaines et donc apprendre à naviguer dans cette incertitude. Accepter le changement, non pas essayer de le contrôler, mais en tout cas essayer d'apprendre à faire avec. Voilà, le Chaos Engineering, pour moi, c'est ça.
Il y a un aspect un peu effrayant, j'ai envie de dire, dans le Chaos Engineering, parce que tout le monde s'imagine que c'est toujours casser un peu la production. Justement, dans ton approche, est-ce que c'est casser la production ou alors... Ça a quelque chose de plus préparé.
Alors, préparé, c'est sûr. Effectivement, casser la production... La difficulté avec cette notion de casser la production, c'est qu'elle est vue comme une sorte de... Comment dire ? Ça reste un moyen. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de casser la production, mais comme j'ai dit, l'incertitude étant là, la production, c'est mieux de penser qu'elle est de toute façon cassée, de base. Et donc... Vu qu'on essaye de gérer cette incertitude-là, puisqu'on ne sait pas où elle est cassée, sinon elle ne serait sans doute pas cassée, ou alors quand elle est cassée et qu'on sait où c'est, au moins c'est une information qu'on connaît, ce qui est toujours mieux que de ne pas savoir où elle est cassée potentiellement, même si on décide de rien en faire. Sur ma voiture, imaginons que ma portière soit abîmée, je le sais, et c'est déjà quelque chose, mais j'ai décidé de rien en faire parce que ça n'impacte pas ma conduite, entre autres. Et donc, pour moi, casser la production, l'idée, c'est plutôt de dire la production est cassée, donc on apprend à l'accepter et se dire comment on avance à partir de là. Voilà, c'est ça. Le souci, c'est que le message est trop souvent réduit à « on va casser quelque chose parce que ça a été un peu l'idée du Chaos Monkey, l'idée de certains acteurs du domaine, mais c'est réducteur et surtout, c'est pas aider la cause. La cause qui est de dire « essayons de naviguer cette incertitude ».
Alors justement, l'incertitude, tu la places où ? C'est, t'as une incertitude dans ton environnement, t'as une incertitude dans ce que tu fais tourner.
Elle est partout. C'est pas pour rendre les gens inquiets que je dis ça ou quoi que ce soit, mais force est de constater que on a amélioré nos processus de développement dans notre industrie depuis au moins depuis longtemps quand même, mais disons que depuis 20 ans, on voit bien. La notion de test de plus en plus acquise à tous les niveaux. Ça peut être test unitaire jusqu'au test performance et tous les tests qualitatifs. On a aussi acquis cette culture DevOps qui n'est pas encore complètement ancrée, mais on voit bien qu'elle s'impose de plus en plus depuis quelques années. Donc, on essaye d'améliorer non pas seulement l'outillage, mais les process, les cultures. Mais l'ensemble de ces approches part du principe, malgré tout, qu'on est dans une forme de contrôle. Contrôle continu de on sait exactement ce qui existe. Comme ce n'est pas vrai, puisque la réalité des choses fait que certes j'ai testé, mais quand ça a été déployé, il y a 1000 variations qui peuvent arriver, que ça soit technique, un disque dur qui meurt, ça peut être un autre service dont je dépends qui finalement a sorti une nouvelle version qui a un impact sur moi. Mais elle peut être aussi effectivement Tout à fait. Business, la pandémie, qui aurait pu penser qu'une pandémie arrivait? Donc, l'idée, ce n'est pas de dire on peut tout prévoir, mais c'est de se dire, voilà, il peut avoir des variations à différents degrés. L'intérêt du chaos engineering, c'est qu'on va essayer, comme tu disais tout à l'heure, de préparer les choses pour les explorer. Donc, on va avoir un ensemble de scénarios et on se dit lequel est prioritaire pour nous, lesquels sont importants pour nous pour que soit purement business, soit pour notre utilisateur. Enfin, en tout cas, choisir un angle ou des angles qui sont nécessaires pour nous d'avoir une certaine résilience. Et c'est sur ça qu'on va travailler, en explorant les faiblesses du système, mais aussi comment le système réagit à ces faiblesses. Donc, si par exemple, je dépends d'un service tiers qui subitement tombe ou subitement est plus lent, comment je gère ça? Voilà. Je n'ai pas de contrôle sur ce service. Tout ce que je sais, c'est que je le consomme. Comment je fais pour traiter ça? Donc, la préparation, elle est à tous les niveaux. Elle est aussi au social, c'est-à-dire, je devais faire une démo, puis subitement, ça ne marche pas. Classique. Mais aussi, bah voilà, j'ai une livraison à faire, et puis subitement, le ou la personne qui devait, enfin, la personne qui devait, pardon, gérer, chapeauter ça, va être bientôt papa ou maman, et finalement, ne peut pas venir parce qu'il y a un événement extraordinaire qui arrive. C'est génial. Mais voilà, ça arrive. Donc, il y a certaines choses qu'on peut préparer en avance et puis d'autres non. Par contre, plus on s'entraîne à se dire les choses vont arriver quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, mieux on les vit. Et du coup, on améliore l'ensemble de la réaction parce que c'est toujours plus facile quand vous conduisez. C'est pas pour rien que les statistiques disent que un jeune ou une jeune conductrice a plus de risques d'accident que quelqu'un qui en a 20 ans d'expérience ou 10 ans. C'est pas parce que subitement on est devenu des pilotes de Formule 1, c'est parce que on a acquis, en fait, sans s'en rendre compte, tout un tas d'expériences qui font qu'on réagit mieux aux événements surprenants de la route. Eh bien, ce n'est pas différent dans notre industrie. Mais bizarrement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à accepter, parce qu'on veut contrôler. Voilà.
Traditionnellement, on va dire qu'on avait un système, on fait tourner une application en production, et puis on se dit qu'avec le monitoring et les outils de logging, on arrivera à s'en sortir si jamais il y a un pépin qu'on n'estime même pas pouvoir se produire. Ça, c'était un peu la façon de faire avant. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde plus incertain où les choses cassent, on commence à en prendre bien conscience, et du coup, il faudrait entraîner ses équipes, c'est ce que tu es en train de nous dire. Donc leur faire répéter des scénarios fictifs, mais les mettre en place pour pouvoir les entraîner à réagir alors aux différents scénarios. Comment est-ce que tu peux en donner deux, trois peut-être?
Alors, juste avant que je te donne deux, trois scénarios, clairement, la réaction est importante. Mais ce n'est pas que la réaction, c'est une forme de préparation, c'est-à-dire que d'anticipation plutôt. Plus je me serais. Alors, entraîner, c'est toujours un risque, un terme un peu compliqué parce qu'on pense formation, on pense ce genre de choses qui ne sont pas forcément inutiles, mais ce n'est pas purement voilà, formation. C'est acquérir en soi, vraiment en soi, cette attitude de dire. Même en tant que développeur, je dis même en tant que, parce que je suis développeur à la base, donc je pense passer aussi pour en parler, c'est qu'on a trop, on est déjà souvent en tant que développeur, on est extrêmement loin de l'utilisateur final. Et donc, on a cette attitude de dire, mais moi, j'ai testé ça, ça marche sur ma machine, un grand classique, ou j'ai testé, donc j'ai fait tout ce qui était nécessaire. Si ça pète, c'est pas de ma faute. C'est pas, en gros, c'est même pas de ma faute, c'est pas de ma responsabilité. Or, parfois, c'est certains choix initiaux, techniques, qui n'ont pas pris assez en compte cette incertitude que quelque chose pouvait tomber, que le réseau pouvait tomber. Tiens, j'appelle tel service. Et on ne met jamais rien au niveau développement en place pour se dire, bah ouais, mais si le serveur me renvoie une erreur bizarre, qu'est-ce que je fais? Non, on part du principe que de toute façon, le lien, il sera là. Donc, ce n'est pas juste une réaction, parce que si on n'était que dans la réaction, on n'aurait pas une amélioration des choses. Bon, certes, ça serait plus confortable, parce que les équipes sauraient mieux gérer les incidents qui arrivent. Mais en amont, quelque part, on ne se préparerait pas à ça. Et je pense que c'est important que l'ensemble de la chaîne se prépare en amont sur ça. Pour revenir à des scénarios, bah, c'est sur des scénarios catastrophes. Ça peut être vraiment le truc le plus simple, c'est-à-dire, je suis dans une architecture, même sans parler microservices, mais aujourd'hui, c'est difficile de ne pas avoir une architecture à minima un peu distribuée avec deux, trois composants ici ou là. Et ces composants-là, s'ils sont faits par différentes équipes, bah, une équipe subitement peut sortir une nouvelle version qui pète l'API ou qui a mal communiqué là-dessus, qui a introduit un peu de latence. Et cette latence, eh ben, elle va impacter l'utilisateur, qui va sentir que c'est moins rapide. Ce moins rapide peut avoir une conséquence sur l'ensemble du business. On prend un cas d'Amazon. Alors, évidemment, on est toujours dans l'échelle absolument gigantesque avec du Google ou du Amazon. Mais ce sont des archétypes pas inintéressants à garder. À Amazon, ils savent certainement, en moyenne, voilà combien de ventes ils font par minute ou seconde, peu importe. Une seconde de latence quelque part peut diminuer leur business, peut diminuer leur chiffre d'affaires. Parce que eux, c'est direct. Voilà, c'est quelques millisecondes vont impacter. Donc, on se rend bien compte que ces questions-là ne sont pas purement techniques. Elles ont un vrai impact sur l'utilisateur final ou sur le business. Sur l'utilisateur final, parce qu'il peut avoir sa réponse trop tard ou ce genre de choses. Ou avoir cette sensation, et on viendra sur la fiabilité, la reliability tout à l'heure avec SRE sans doute. La fiabilité, c'est la perception de l'autre sur nous. Un bon exemple que j'ai pris maintes et maintes fois. Dans le passé, moi, je suis passé de Oui à SNCF à Trainline parce que je trouvais que Trainline m'offrait vraiment, au sens classique train-train, quand c'était encore la boîte française, qui m'apportait cette fiabilité au sens où, quand je cliquais, il se passait ce que j'avais prévu. Et ce qui est marrant, c'est que depuis qu'ils se sont fait racheter, Trainline, on en a parlé récemment partout sur les réseaux sociaux, la boîte qui a racheté commence à ne, enfin, clairement dévier de cette attitude de qualité en amont. Et ben pour moi, la fiabilité n'y est plus. Donc, j'ai perdu confiance dans cet outil-là. Et cette perte de confiance, elle est catastrophique parce que elle aurait pu se prévoir, elle aurait pu se dire, ben, on va explorer ça. Disons que si on change ça, parce que pour des raisons techniques, on a vraiment besoin de réduire la voilure sur ça, je ne sais pas, sur cette qualité-là. Mais qu'est-ce que l'impact, en fait? Voilà. Donc, on se rend compte que, encore une fois, on peut avoir des incertitudes partout, et c'est qu'en explorant certains scénarios qu'on réussit à voir ceux qui sont pertinents, et si oui ou non, il y a un impact.
Dans tout ce que tu dis, ça montre un peu la complexité de la chose, parce que tu as parlé du développement d'une application, tu as parlé du run de cette application, tu as parlé des analyses business et finalement de l'utilisateur final. Donc, il y a un impact à tous les niveaux de la chaîne de production et même de consommation. Comment on arrive à justement capitaliser, on va dire, à tous les étages? Comment on sait les retours qu'on a sur la qualité du code qui est fourni par les devs, ou comment on sait que notre équipe de SRE arrive mieux à mesurer l'efficacité qu'elle a pour rétablir quand ça casse?
Alors, le rétablissement, il y a des mesures qui sont assez aujourd'hui standardisées. C'est les Meantime Recovery, Meantime to Recovery, Meantime to. Enfin, c'est les MTTR. C'est des indicateurs qui nous disent combien de temps j'ai mis pour remettre la machine en marche. Parfois, il y a des indicateurs intermédiaires qui disent combien de temps j'ai mis pour m'apercevoir de choses qui arrivaient. Donc, il y a des indicateurs aujourd'hui. Si vous avez effectivement une forme de monitoring, mais pas juste des services, mais aussi de temps de réaction de vos équipes. Ça dépend évidemment de la taille. Si vous êtes une toute petite PME, vous n'avez peut-être pas les mêmes infrastructures d'astreinte que si vous êtes un gros groupe comme La Poste. D'accord? Donc, mais les principes restent ceci dit relativement les mêmes, c'est-à-dire que vous devriez regarder le temps que vous avez mis pour rétablir le service, au moins un service minimum. Mais même là, je fais un aparté, même pour beaucoup d'entreprises, définir ce que c'est qu'un service minimum est compliqué. C'est-à-dire que qu'est-ce qui représente le service minimum que l'on veut fournir à nos utilisateurs? Beaucoup ne savent pas, donc pensent qu'il faut tout rétablir. Donc, comment vous faites des choix si vous avez l'impression, si beaucoup de choses sont pétées, si vous ne savez pas quelle est la chose essentielle à rétablir? Mais bon, bref, au-delà de ça, donc il y a ces indicateurs qui existent, il suffit de se renseigner sur Internet, ils sont assez standardisés. Après, comment choisir pour une entreprise? Ça dépend un peu du niveau de maturité. Si vous avez déjà une architecture qui, grosso modo, à chaque fois que vous livrez, vous tombez, c'est-à-dire que vous partez de loin, peut-être que vous commencez là. Et vous ne commencez pas forcément même par du chaos engineering. Vous commencez déjà par penser un petit peu, OK, on va améliorer notre capacité de déploiement sans tout casser à chaque fois. C'est-à-dire que vous ne vous apportez pas une nouvelle complexité de méthodologie, vous faites acte, vous prenez acte que vous êtes à un niveau qui n'est pas suffisant, vous n'êtes pas résilient à ce moment-là. D'accord? J'utilise le terme résilient, pas fiabilité là, parce que la résilience, c'est vous qui la contrôlez en fonction de vos services. La fiabilité, c'est ce que les gens perçoivent de vos services, à mon avis. Et donc, du coup, là, il faut commencer déjà. Ne vous rajoutez pas le chaos engineering en soi si vous n'êtes déjà absolument pas à un niveau minimum de résilience. Si vous êtes à ce niveau-là, peut-être commencer en staging, commencer technique, commencer façon test. C'est-à-dire, on va commencer à regarder, tiens, effectivement, si je tire le fil là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, petit à petit, vous augmentez la voilure. Je pense que si vous commencez trop tôt au niveau business, c'est pas que c'est inintéressant, les discussions sont importantes à poser, mais déjà, il peut y avoir un manque d'adhésion des équipes techniques qui vont penser que c'est encore une chose venue du management, d'une sorte de lubie. Et il n'y aura pas forcément une réalisation du besoin. Et puis, ça va être tellement haut niveau que ça va correspondre à des indicateurs qui, encore une fois, sont souvent complètement étrangers en fait aux équipes techniques, qui n'ont pas même idée, qui ne savent, parce que la communication, parfois, elle n'est pas bonne, et ce qui fait que les équipes techniques ne connaissent même pas ces indicateurs importants pour l'entreprise. Donc, je sais que je n'aide pas forcément là, mais je pense qu'il faut regarder, il faut essayer d'être objectif avec sa propre maturité. Et de se dire, OK, et si tout, de toute façon, tout pète tout le temps, prenez les indicateurs, les indices de la résilience, renseignez-vous, regardez ce que font les autres, mais voyez ça comme, OK, d'abord, on va aller par étapes. C'est comme si vous ne faisiez pas de test avant, vous allez commencer par des tests unitaires, puis vous dire, OK, maintenant, je sais que je maîtrise cet aspect-là, je vais peut-être passer à d'autres tests. Donc, voilà, c'est comme n'importe quelle culture que vous essayez d'apporter. Allez-y graduellement, mais ayez un aspect, une honnêteté de là où vous en êtes pour pouvoir vraiment arriver quelque part.
Alors, tu parles d'indicateurs, tu as mentionné le MTTR.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs, puisqu'on a évoqué un peu les SRE aussi? Parce que dans ce que je vois aussi, c'est le chaos engineering marcherait pas dans un monde où il y a des silos. Ça nécessite une bonne communication entre les équipes. Parce que si quelque chose pète, parce que la version d'API d'un service change alors que l'autre non, ça va impacter les gens du run, qui doivent leur monter aux gens du dev, qui doivent s'adapter, qui doivent communiquer entre équipes de dev et entre équipes d'ops et de dev. Donc, quels autres indicateurs aussi tu conseillerais de regarder ou de mettre en place pour faciliter l'implémentation du chaos?
Depuis le début, on a beaucoup parlé chaos engineering et fiabilité et SRE. Chaos engineering n'est pas un silo, effectivement, mais n'est pas utilisable, comme tu le dis, au sein de silos non plus. Enfin, n'est pas utilisable. Marchera mieux s'il y a une communication transverse. On est d'accord. Parce qu'on parle, on doit communiquer de toute façon, peu importe chaos engineering ou pas. Mais le chaos engineering, pour moi, n'est qu'un outil, c'est un véhicule. La fiabilité des systèmes et la résilience sont des jumelles ou des jumeaux, je ne sais pas si c'est. Si c'est l'un ou l'autre, mais en tout cas, ce sont les deux faces d'une même pièce, avec la résilience qui est le côté, j'ai envie de dire, interne, c'est-à-dire l'entreprise sait sinon si elle est résiliente, et la fiabilité, c'est la perception. Cette fiabilité, donc qu'on appelle reliability en anglais, effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup peut-être grâce à ce que Google a sorti avec les SRE. Il y a Ça va tellement vite, j'ai envie de dire quelques années, mais ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans qu'ils en parlent. Mais notre industrie aujourd'hui va à 200 à l'heure, 6 mois, c'est déjà ancien. Les SRE sont intéressants parce que ce qu'a fait Google, c'est dire, effectivement, on a du mal à quelque part lier les équipes productives, toute la chaîne de développement, et quelque part l'utilisateur final. Certes, j'imagine, je ne sais pas comment ils sont constitués, mais j'imagine qu'ils ont des product managers, tout un tas de trucs comme ça. Mais il manquait tellement ceux qui sont là pour dire. Attention, il faut aussi une qualité de service. Voilà. Et à partir du moment où on a parlé de qualité de service, ce qui va sans doute faire bondir beaucoup de testeurs qui travaillent sur ces sujets-là depuis des années et qui vont dire, mais ni le chaos engineering, ni la qualité de service sont nouveaux. Parfois, il faut effectivement un nouveau terme pour un petit peu relancer la machine. On n'est pas si loin de ces définitions qu'ils ont probablement. Mais l'idée des SRE, c'est de dire, on veut une qualité de service. Donc, on a trois indicateurs qui vont être les SLA, les SLO et les SLI. Les SLA, c'est contractuel. C'est ce que vous signez avec vos clients. C'est dire, on s'engage à ça. Et si on pète, on vous mettra 2 heures pour répondre, on mettra 4 heures. Et sinon, voilà, les pénalités, c'est contractuel. Donc, mettons ça de côté parce que ce n'est pas le sujet de la discussion vraiment pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt les SLO et les SLI. Ces deux indicateurs sont intéressants parce qu'ils essayent d'objectiver quelque chose qui est souvent trop subjectif. Plutôt que de dire, oh là là, le service est lent, les gens se plaignent. Pourrait très bien juste monitorer Twitter et puis attendre que quelqu'un gueule. C'est souvent la meilleure source d'alerte qu'on puisse avoir, bien avant les outils de monitoring. Mais bref, vous avez SLO et SLI. Et donc, grosso modo, parce que c'est encore un sujet qui on va dire en devenir, donc Google en donne une définition, mais ce qu'on peut dire, c'est que le SLO, c'est Service Level Objective. C'est en interne, On se donne l'objectif d'être, par exemple, d'avoir un temps de réponse en dessous la seconde pour 95% des requêtes qui nous arrivent sur une période de 30 jours. Et donc, on se donne cet objectif-là. Une des raisons qu'invoque Google souvent, c'est de dire le 100% n'existe pas, c'est non seulement faux, mais c'est contre-productif de penser qu'on puisse être à 100%, puisqu'on va penser qu'on va construire un fort et qu'en fait, n'importe qui finalement qui utilise le système est une sorte de menace qu'il faut éliminer. Donc, on ne part pas du bon pied pour parler à l'utilisateur si on pense que rien que son utilisation risque de casser notre bon indicateur de 100%. Donc, ce qu'ils disent, c'est non, non, il ne faut pas viser comme ça, il faut viser moins haut. Alors parfois, 95, ce n'est pas énorme, mais quand on commence, comme je disais, la maturité dit que même si on arrive à 50, on est content. Il y a certains endroits où c'est à ce niveau-là. Hein. Mais en tout cas, se définir un objectif va permettre de donner à quelque chose objectifiable, justement, non subjectif. On se dit, on se met d'accord que on doit atteindre ensemble ça.
Comme vous le savez, créer un podcast est aussi passionnant qu'éprouvant. Mais c'est une superbe aventure. Ce podcast est passé en un rien de temps d'une folle idée qui me trottait dans la tête à quelque chose de bien concret. Maintenant, je cherche continuellement à l'améliorer. Afin de vous permettre de m'aider à rendre ce podcast encore meilleur, j'ai créé ma page Patreon. J'y partage les coulisses du podcast, les travaux que j'ai en cours, mais aussi un accès anticipé aux épisodes et des épisodes bonus. Soutenez ce podcast avec Patreon sur www.patreon.com/electromonkeys.
Imaginons que je suis une équipe qui fournit un projet et qu'au bout d'un moment, ce service, ce level objectif n'est plus atteint. Ce que Google a mis en place, ce n'est pas une obligation, mais je trouve ça assez pertinent parce que sinon, on manque l'autre partie du dialogue, c'est dire cette différence que vous avez laissée, donc de, par exemple de 5%, c'est quelque part votre erreur, votre budget d'erreur. C'est-à-dire que c'est, on tolère. C'est pas, en fait, il faut même presque le consommer. En tout cas, tant que vous êtes dans cette zone-là, l'entreprise et nous, on se dit, tout va bien. On est dans une sorte de normalité. Alors 95%, 5%, c'est beaucoup. Donc, souvent, on n'est plus dans un service production, on va être plutôt dans le 99. Mais même 99% sur un mois représente beaucoup de requêtes potentiellement échouées. Donc si on se dit on est à 99%, on se donne cette marge. Et cette marge-là, c'est la marge d'erreur du service, parce qu'on sait très bien qu'une nouvelle release peut avoir des régressions, parce que ce genre de choses. Ce qui se passe, en tout cas la mécanique qu'a mis Google en place, c'est de se dire, si on dépasse ce budget-là, alors on interdit les nouvelles releases, ou en tout cas l'objectif de la prochaine n'est pas la nouvelle fonctionnalité, mais c'est de revenir à un niveau de qualité suffisant. Donc ça permet un dialogue. Ça permet un dialogue avec les équipes de dire, c'est pas moi qui suis en train de te dire, c'est nul ce que tu as fait, c'est on s'est mis d'accord ensemble sur un objectif, je reporte que il n'est plus résolu. Pour avoir cet objectif, on a ce qu'on appelle les SLI, qui sont les indicateurs. Grosso modo, c'est les mesures qui sont faites pour déterminer si on répond à cet objectif. Donc ça peut être typiquement, si c'est purement en interne, nombre de requêtes. Qui prennent tant de temps, mais ça peut être en interne, c'est-à-dire que le SLO peut être purement voilà, entre deux services en interne, est-ce qu'il y a eu un nombre de 404? Ce n'est pas quelque chose que forcément l'utilisateur a conscience, mais qui peuvent être qui sont pertinentes pour les équipes pour s'améliorer. Souvent, quand même, l'idéal, c'est qu'on mesure quelque chose, la perception de l'utilisateur. C'est-à-dire que ce qu'on veut représenter, c'est le niveau de qualité perçu par les utilisateurs. Si on revient au tout début dont je parlais d'incertitude et qu'on parle du fait qu'un système évolue, puisqu'il est changeant, on sait que quelque chose peut péter. Mais si cette chose qui pète n'a pas un impact sur la perception de l'utilisateur, pas qu'on s'en fout, mais on sait qu'on peut se relâcher un peu et se dire, OK, ça, on le traite plus tard. Et ça commence à donner une perspective parce qu'on peut se dire, ces SLO et SLI nous permettent de dire, voilà ce qui compte, voilà les indicateurs qui, au sens de non seulement l'entreprise, mais au sens des équipes de l'ensemble de la chaîne, sont importants. Une fois qu'on a défini ces choses importantes, on se dit, tant que ça va bien, entre guillemets, c'est qu'on sait que notre utilisateur a le service qu'on lui a promis. Quand ces indicateurs sont impactés, à ce moment-là, on a besoin d'agir. Ce qui permet que si on a un système très complexe, et je reviens aussi sur ce que je disais, cette capacité à se dire c'est quoi la baseline, c'est quoi ces éléments nécessaires. Je reprends le cas d'Amazon, et je ne sais pas du tout si c'est un salaud pour Amazon, mais on pourrait imaginer qu'un e-commerce se dise ce qui est important pour moi, c'est que les utilisateurs puissent chercher et mettre dans leur panier des items. Je peux tolérer qu'ils ne puissent pas acheter, parce que tant qu'ils mettent dans leur panier, quelque part, c'est que le service continue. Voilà, on se rend compte qu'il y a deux grosses fonctions qui sont quand même essentielles dans l'e-commerce, c'est capable de trouver des produits, de les mettre dans le panier et puis de les acheter. Si tu ne peux pas trouver des items, de toute façon, tu ne peux pas les acheter. Donc, à partir de là, une entreprise peut se dire, pour moi, la priorité est là. Donc, on va mettre des SLO, peut-être plus sur ça, parce que c'est essentiel pour l'entreprise. On va toujours avoir des SLO probablement sur la partie paiement, parce que ça reste nécessaire, mais ils seront peut-être moins prioritaires. Voilà. Et donc, ces indicateurs sont simplement de se dire des indicateurs relativement standards qui sont, voilà, je veux 99% du temps qu'une recherche aboutisse. Voilà. Et c'est ce genre de choses. Et puis après, les indicateurs, bah, c'est suivant l'architecture, les métriques qui sont remontées, on est capable, oui ou non, de les mesurer. Ce qui est toujours intéressant, c'est d'avoir, on peut imaginer que plusieurs indicateurs sur un objectif permettent d'avoir une vue homogène de cet objectif. Si un indicateur commence à tomber, mais que les autres tiennent, voilà, on peut encore avoir une analyse différente.
On a tous ces indicateurs qui sont mis en place, et en tout état de cause, on sait que notre système est susceptible de casser à un endroit ou à un autre. Donc là, c'est en dehors du chaos, on a déjà des mesures qui vont permettre de définir la fiabilité de notre service, mais maintenant, tout ce qu'on fait, c'est croiser les doigts pour espérer que telle ou telle chose qui casse va pas nous faire descendre en dessous du seuil de notre SLO. Où intervient le chaos maintenant dans une fois qu'on a mis ces indicateurs en place?
Alors, là, on est dans la phase proactive. Le chaos engineering, c'est être proactif. C'est de se dire, je ne sais pas ce qui va casser. Parfois, je sais, parce que c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose, un service, c'est une fuite mémoire. On est conscient depuis des mois. Et on a mis en place simplement une routine parce qu'on n'a pas le temps d'investiguer, on ne comprend pas le problème. Donc, on a mis un simple truc qui redémarre le service quand il tombe. Voilà. On sait que ça casse, on sait que ça va arriver. Et puis, on a une rustine parce qu'on ne sait pas faire autrement, on n'a pas le temps. Voilà, c'est la vie des entreprises. À partir du moment où notre rustine permet que notre SLO ne soit pas impacté, donc nos indicateurs nous disent tout va bien, finalement, cette rustine, elle n'est pas si mal, elle n'est pas belle. Mais elle nous dit, en fait, moi, mon SLO, il est résolu. Donc, quelque part, ce n'est pas que je m'en fous, hein, parce que je ne veux surtout pas que ça soit perçu comme ça. Mais en tout cas, je peux me permettre de mettre mes compétences et mes personnes et toutes ces choses, mes ressources, sur d'autres choses, parce que je sais qu'on a trouvé une solution pour cet aspect-là. Quand on ne sait pas, la seule chose qu'on puisse faire, c'est explorer. C'est-à-dire accepter l'idée que on va aller un petit peu... et c'est cette idée d'aller casser le système, de casser la production, c'est d'aller taper un petit peu dans le système. Alors, le chaos engineering, il a une forme telle qu'il a été un petit peu émis par les anciens de Netflix, c'est une forme très expérimentale. C'est vraiment la méthode scientifique. C'est-à-dire qu'on pose une hypothèse, on a une hypothèse, on va créer les conditions de turbulence qui nous intéressent, on va observer le système à ce moment-là, et on regarde si l'hypothèse est vérifiée ou infirmée. Et donc, on met ça en place. Donc, cette hypothèse, ça va être dire, par exemple, quand une nouvelle version du service A est sortie, service B, qui en dépend, n'est pas impacté. Ou, quand je dis n'est pas impacté, c'est si on a un SLO et donc des mesures sur le rendu de service B, ce SLO n'est pas impacté. Donc, imaginons qu'on ait mis sur le service... Mettons que sur le service recherche d'items, on a un SLO. Est-ce que quand le service de paiement tombe, on impacte le SLO du service de recherche? Si ce n'est pas le cas, on sait que déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de dépendance directe dans ce sens-là. Donc, on peut se dire, au moins, si un jour ça tombe, on peut dire, OK, on n'a pas d'inquiétude sur la recherche, puisque de toute façon, on a prouvé par cette recherche, cette exploration, que ce n'était pas le cas. Par contre, parfois, on a des surprises. C'est-à-dire qu'on faisait l'hypothèse que non, il n'y avait pas de lien. Et puis si, en fait, pourquoi ? Prenons l'exemple de la recherche d'items et du paiement. Peut-être que quand on cherche et qu'on veut mettre dans le panier nous dit, vous devez avoir une carte de crédit renseignée. Qui ça utilise le service de paiement pour savoir si une carte de crédit qui est renseignée ? Hop, le service est tombé. Ah, oh, mince, on se rend compte que si, en fait, il y a un vrai. On peut plus rechercher, ou en tout cas, on peut plus répondre à cette idée de recherche mise en panier parce que le service de paiement est tombé. Et parfois, en fait, alors là, ça serait assez évident parce qu'il suffirait d'un bon diagramme d'architecture qu'on le voit, ça serait visuel. Mais souvent, c'est plus insidieux parce qu'aujourd'hui, dans nos architectures microservices, on a tel niveau de dépendance à N. On n'est pas en direct, on a peut-être deux ou trois intermédiaires en fait. Donc on ne pense pas forcément que l'intermédiaire ou que ce service qu'on tape va être les intermédiaires vont nous colmater l'erreur ou vont nous augmenter l'erreur. Et on a des surprises. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'explorer pour prouver les choses, pour avoir des données. Trop souvent, on a deux façons de voir les choses. Soit quelqu'un va nous dire, mais non, il n'y a pas de lien. Je vous le dis, je connais le logiciel quand même, je l'ai codé. On a ce type de personnalité, ou on a le type de personnalité qui est en mode, je suis sûr qu'il y a un lien, et donc qui va, au niveau management, qui va par inquiétude, peut-être au mauvais endroit, parce qu'elle n'a pas cette personne n'a pas les bonnes données, va positionner ses ressources au mauvais endroit, va user les équipes en disant, il faut que vous défendiez cet endroit-là. Et donc, le chaos engineering va permettre de dire, mais il n'y a pas besoin en fait de mettre des ressources à cet endroit-là, puisque de toute façon, il n'y a pas de lien entre les deux. On l'a prouvé avec des données. Et c'est tout l'intérêt du chaos engineering, c'est en amont, on va aller creuser un peu et on va savoir, OK, bon, bah, ici, il y a un problème, là, il n'y a pas un problème, là, il y a une surprise. Ou là, et cette surprise opérationnelle, c'est quand même bien de l'avoir avant nos utilisateurs.
On a parlé de scénarios, de répéter des scénarios. Donc, on va, je sais pas moi, simuler de la latence. On va simuler un disque qui casse. Ça, c'est des scénarios qu'on pourrait jouer pour vérifier que notre système tient toujours son SLO. Mais t'es en train de me dire qu'on sait pas justement ce qu'on va rencontrer. On sait pas ce qui va se casser. Alors, comment s'entraîner justement sur une incertitude et en fait avoir des scénarios qui vont nous entraîner pour quelque chose en fait qu'on n'attendait pas quand même.
C'est sûr, l'inconnu, comment on découvre l'inconnu et comment on sait quel chemin prendre pour aller à cet inconnu. Il n'y a pas de recette miracle. Je pense que ça, c'est une culture. C'est-à-dire, cette culture, elle est déjà dans la communication essentielle entre l'ensemble des maillons de la chaîne. C'est-à-dire que n'importe qui de l'équipe de développement, test, peu importe, product owner, doit être capable de dire, voilà, j'ai une question. C'est même pas. Je ne crois pas que ça marche. Ça peut être ça, parfois posé comme ça, et là, c'est la forme n'est peut-être pas la bonne, mais ça revient au même. C'est de se dire, j'ai cette question-là, qu'est-ce qui se passe si? Donc, on a déjà, quand on commence à interroger les gens, on se rend compte que beaucoup de gens ont soit des préjugés, soit des hypothèses en fait en eux, qui n'ont pas, que ces personnes-là n'ont pas exposées. Donc, en fait, en allant creuser, en offrant la possibilité du dialogue, on peut mettre sur la table pas mal de choses. Sinon, il y a une. Alors, sinon, c'est pas sinon. Une approche intéressante qui est un peu corollaire du chaos engineering, ou le chaos engineering en est le corollaire, ça va dans les deux sens, c'est d'utiliser des game day, par exemple. Les game day sont intéressants parce que l'essentiel du game day, c'est de dire, on va aller voir une équipe. Typiquement, on va aller voir, par exemple, l'équipe infrastructure. On va dire, OK, on voudrait que vous listiez tout un tas de pannes possibles qui pourraient arriver et on va essayer de faire en sorte de voir comment l'équipe, je ne sais pas, plateforme, opérationnelle, d'astreinte, développement, réagit quand l'une d'entre elles apparaît. Donc l'idée du game day, c'est absolument pas de pointer les doigts, mais c'est peut-être de lancer les équipes, l'ensemble de la chaîne, dans une dynamique de oh, ah oui, les choses peuvent arriver. Donc typiquement, un game day, ça va se dérouler où en amont, effectivement, une préparation. Donc vous mettez une équipe X dans un bureau, vous dites, mettez en post-it tout ce qui vous vient à la tête qui pourrait se passer mal. Voilà. D'accord? À votre niveau. Ce n'est pas forcément business, hein, ça peut être à votre niveau. On va en choisir un ensemble de scénarios et puis ce game day, on va, avec l'accord de l'ensemble de la direction, évidemment, parce que ça impacte les ressources pendant une journée ou une demi-journée, on va dire, on va prétendre, quelqu'un va prétendre, va être un opérateur et va appuyer sur le bouton qui prétend que ça arrive. D'accord? Donc on va débrancher un câble, je ne sais pas moi, on va tuer le DNS. Enfin, peu importe ce qui marche, on va prétendre que ça arrive. On n'est pas obligé d'automatiser à ce moment-là. On est dans l'exploration de comment les gens réagissent à ça. Et en fait, on va pouvoir simplement s'apercevoir que, bah oui, en fait, on ne se rendait pas compte, mais si un tel ou une telle n'est pas là, et ben en fait, on ne sait pas agir. Parce que, et là, on a appris non pas quelque chose sur le, on a appris sur l'écosystème, en fait. Dire c'est pas possible, on ne sait pas comment agir. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, le game day, c'est un moyen pour un sous-ensemble d'être exploré, mais de mettre l'ensemble de la chaîne face à cette surprise. Après, ce qui se passe, c'est que plus vous allez faire cet exercice-là, plus vous allez pouvoir affiner si les équipes sont, répondent positivement, plus vous allez avoir, probablement voir où est-ce qu'il faut mettre un effort. Voilà.
Le Game Day, c'est une méthode, finalement. Il y a des méthodes et des outils aujourd'hui qui existent dans le paysage du chaos engineering pour aider les équipes à mettre en place quelque chose d'un peu structuré autour de l'expérimentation.
Ouais, alors il y a des outils aujourd'hui. Moi, j'ai deux grandes catégories d'outils qui sont autour du chaos engineering. Il y a les outils d'injection de faute, qui ne sont pas dans la méthodologie chaos engineering, mais qui sont plus dans l'outillage de la gestion de la turbulence. C'est même pas de la gestion, c'est de la création de la turbulence. Donc, en outil open source, on va avoir le fameux Chaos Monkey de Netflix. On va avoir aujourd'hui sur Kubernetes, on commence à en avoir un petit peu certains avec Litmus, avec Powerful Seal, on en a de plus en plus qui arrivent. Et puis commercialement, on a Gremlin, clairement, qui offre une offre commerciale pour aller impacter CPU, ressources applicatives et matérielles. Mais pour moi, c'est de l'injection de faute. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la méthodologie autour, vous avez juste injecté une faute. Mais voilà, qu'est-ce que j'en fais en fait de ça? Et puis il y a des outils qui essayent d'être plus proches de la définition du chaos engineering. Donc il y a Chaos Toolkit. Litmus, c'est intéressant aussi parce qu'il y a cette notion d'expérimentation. Le Litmus en fait et Chaos Toolkit, et en l'occurrence plutôt Chaos Toolkit, vont être vraiment dans la définition en fait du chaos engineering, du protocole. Donc Chaos Toolkit, c'est simple. C'est un fichier. JSON ou YAML, je suis désolé, mais on a besoin de structure dans notre monde. Et on a que ça pour l'instant, en tout cas, on a ça. Et c'est assez universel. Et donc, vous déclarez ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire votre hypothèse de départ, des conditions de turbulence, de quoi observer le système, c'est-à-dire collecter de l'information, et voilà. Et en fait, le Chaos Toolkit, ce qui vous permet de faire, c'est de déclarer ce scénario, déclarer, hein, ce n'est pas impératif, on déclare un scénario. Donc, on arrive en disant, l'hypothèse que je fais, je sais la mesurer parce que j'ai des point dans mon dans ma comment dire dans mon outil de monitoring qui me donne l'information. La métrique dont je parlais tout à l'heure, la mesure du SLI pour le SLO, c'est-à-dire je sais aller demander à mon outil de monitoring le nombre de requêtes qui ont dépassé un certain niveau de latence. Voilà. Et donc ça, je vais aller requêter parce que j'estime que cette requête et peut-être un ensemble de requêtes représentent un état normal, c'est-à-dire tant que je suis dans un état normal, ces valeurs doivent être en dessous un certain niveau. Et après, on a ce qu'on appelle le bloc de la méthode, où là, on va injecter une faute. Voilà. Donc, on peut utiliser Gremlin, on peut utiliser autre chose. On peut utiliser Chaos Toolkit à un ensemble assez large aujourd'hui d'extensions qui vont de AWS, Google Cloud, Kubernetes, en passant par Humio pour tout ce qui est collecte de logs. Vous allez avoir SSM de AWS. Et donc, vous avez un ensemble d'extensions qui vous permettent d'injecter une faute, mais aussi d'aller collecter de l'information pendant que vous faites cette expérience. Et une fois que cette méthode est faite, donc vous avez injecté une turbulence, et finalement, vous pouvez injecter ce que vous voulez parce que Chaos Toolkit est extensible à l'infini. Et donc, une fois que vous avez injecté cette erreur, et bien ce que vous faites, c'est que vous rejouez votre hypothèse de base et vous regardez. Si le système vous dit toujours tout est OK, vous avez acquis une forme de preuve qui dit sous cette condition de turbulence, mes conditions de système qui va bien n'ont pas été impactées. En tout cas, je ne suis pas capable de le mesurer. Par contre, si il y a un impact, ou en tout cas si ça a dévié, c'est-à-dire que votre hypothèse de base, vos indicateurs ne vous retournent plus les mêmes valeurs, vous pouvez au moins corréler, pas forcément une causation, parce qu'il peut y avoir d'autres conditions, mais une fois que vous aurez fait l'analyse, probablement vous pouvez dire, sous ces conditions-là de turbulence, on a un impact sur ces indicateurs-là et in fine sur notre objectif. Donc on a l'hypothèse qui simplement dire, je vais aller requêter le système, je vais aller faire une requête sur le système à différents endroits, dire, est-ce que tout ça va bien? Est-ce que le normal est là? Donc, est-ce que mon temps de réponse sur les 5 dernières minutes est de moins de 500 millisecondes, par exemple? Si oui, OK, good. La première fois, on le joue parce qu'on veut savoir. Si ce n'est pas déjà le cas, ça ne sert à rien d'aller introduire une turbulence, c'est que votre système il n'est pas dans un état où vous pourrez lire la réponse. Donc, vous faites ça et puis ensuite, vous injectez votre erreur. Casser votre système, si vous voulez le dire comme ça. En tout cas, vous agissez. Ça peut être, sans casser le système, ça peut aller aussi dire un truc très bête. Imaginons que vous appuyez sur S3 pour écrire sur AWS S3. L'injection de l'erreur, ça pourrait dire, je vais enlever une permission spécifique. Est-ce que mon service va tomber? Est-ce que quand il va écrire, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va peut-être pas pouvoir le faire. Je ne sais pas. Voilà. Comment il va réagir? Comment la chaîne du service va réagir? Donc voilà, on n'a pas vraiment cassé le système, mais on a changé les conditions du système. Et ça peut arriver parce qu'un opérateur un jour déploie un nouveau jeu de permissions sur AWS, des crédentials, et oublie, enlève cette permission, et puis voilà, vous avez effectivement cette condition qui est arrivée. Et ce n'est pas une volonté d'aller faire quoi que ce soit que de déployer quelque chose qui était prévu. Et puis vous rejouez votre baseline, donc vous rejouez vos indicateurs, vous demandez au système, est-ce que j'ai eu des requêtes qui ont dépassé les 500 millisecondes? Si oui, il y a probablement un relien entre les deux. Sinon, soit il n'y a pas de lien, soit j'ai posé la même mauvaise question ou j'ai mesuré la mauvaise chose. Mais bon, ça, c'est seulement l'analyse a posteriori qui vous permettra de dire « Ah ok, de toute façon, ça n'avait rien à voir, donc voilà. » Et donc, le Chaos Toolkit, c'est simplement ça. C'est ce fichier-là que vous décrivez avec un ensemble d'extensions et vous lui donnez dans une ligne de commande, ce qui fait que vous pouvez l'automatiser dans vos CI, dans du serverless, où vous voulez, et puis vous jouez ça. Et vous avez un ensemble, un catalogue à la fin d'expérimentes, on appelle ça des expérimentations, qui représente les questions que vous posez et les données que vous essayez, les preuves que vous essayez de collecter sur ces questions-là.
Si vous avez adoré un épisode ou au contraire qu'il n'était pas du tout à votre goût, ça m'intéresse. Venez me faire part de vos avis sur Twitter, @K8Monkeys. Je souhaite que ce podcast soit avant tout le vôtre et il me tient à cœur de l'améliorer continuellement grâce à vos retours. Une fois qu'on a fait cette expérimentation, donc c'est des scénarios qu'on va rejouer, mais mettons qu'on a quelque chose qui est cassé au niveau de nos permissions sur S3. Quelle est la réponse qu'on va attendre en fait de ce scénario au final? C'est d'avoir un meilleur temps de réaction des équipes opérationnelles parce que ça va pas forcément être le soft qui va pouvoir nous permettre de contourner cette problématique. Donc on a notre scénario. On change une permission et on n'est plus en mesure d'écrire, par exemple, et ça va impacter notre SLO. On va s'en rendre compte par cette expérimentation. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il en ressorte? C'est-à-dire que l'équipe soit plus à même de réagir vite en se disant « Ah, tel changement a cassé notre SLO. » Ou alors essayer de se dire comment on peut contourner quand on écrit notre code le fait que ce scénario puisse nous impacter.
Alors, ce qui est intéressant avec une expérimente, c'est qu'elle est jouable et sa lecture peut être à différents niveaux. C'est-à-dire que tu peux très bien jouer exactement cette expérimentation avec l'idée de dire, je veux regarder effectivement mes impacts sur l'utilisateur. Est-ce que j'ai eu de la latence? Ou est-ce que j'ai eu des erreurs d'HTTP? Voilà, est-ce que mes utilisateurs ont été impactés? Mais tu peux aussi la regarder sans que ta baseline soit... Enfin, tes indicateurs, au lieu d'aller regarder est-ce que mes utilisateurs ont été impactés, tu peux aussi ne pas regarder des SLI, mais simplement dire est-ce que j'ai une alerte qui a été remontée. Voilà. C'est-à-dire que tu joues l'expérimentation où tu dis, en fait, tu changes effectivement ton hypothèse, ta méthode va être la même, mais tu bascules dans une hypothèse qui est plutôt de dire je dois avoir une alerte qui est remontée. Alors, Chaos Toolkit te permet de dire à l'état zéro, je sais que je n'ai pas d'alerte. Donc, va pas échouer parce que j'en ai pas, puisque c'est ce que je cherche à prouver. Donc, il y a évidemment des drapeaux au niveau de la ligne de commande pour choisir comment tu veux le jouer. Mais l'idée, c'est de dire, mon hypothèse, ça va être de dire, je dois avoir une alerte qui est remontée. Donc, initialement, tu regardes que tu ne joues pas l'hypothèse parce que tu sais que tu n'en as pas. Tu joues ta méthode, donc tu impactes S3 et les crédentials, et tu rejoues à ce moment-là l'hypothèse et tu dis simplement, est-ce que j'ai une alerte qui est remontée? Donc là, tu es plus dans l'opérationnel. Tu dis, est-ce que j'ai appris quelque chose? Est-ce que j'ai été alerté de ce point de vue-là? Mais après, tu peux le voir purement développeur. Tu dis, mon service, maintenant, on sait que ça peut arriver. Donc, on a un peu consolidé le service. Ce qu'on a fait, c'est que le service va retenter le coup. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça peut arriver par intermittence, mais que ce n'est pas quelque chose qui dure. Voilà. On a analysé le problème. On ne sait pas trop encore ce qui se passe. Mais donc, du coup, on a mis encore une fois une rustine. Parce que peut-être c'est la seule solution qu'on avait. On a mis une rustine au niveau du code où on retente pendant 3 fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'échouer et immédiatement de tout casser, on va se dire, allez, on se donne 3 essais pour écrire. Et donc, bah, simplement, là, ton hypothèse, c'est de te dire, l'appel doit réussir. Voilà. Et peut-être que si tu as assez du tracing, par exemple, avec l'observabilité que tu utilises de l'open tracing, peut-être que tu vas être capable d'aller interroger ton serveur d'open tracing pour dire, donne-moi les traces pour cet appel-là et regarde, voilà, est-ce que j'ai eu des retries, est-ce que j'ai eu sûrement autre chose. Et donc, ton hypothèse peut être purement là, développeur, j'ai envie de dire vraiment près du code, en disant, bah, moi, ce que je recherche, c'est, là, on est quasi proche d'un test en soi. D'accord ? Là, j'ai bien conscience que la limite est parfois très ténue entre test, au sens que c'est ce que j'attends en tant que développeur, et exploration, expérimentation. Ce qu'on dit souvent d'ailleurs, c'est que tant qu'on ne sait pas, on est dans l'expérimentation, chaos engineering. Quand on sait, on rejoue les mêmes expériences en continu, tous les jours, tous les 2 jours, aléatoirement, peu importe. Et là, on est plus dans ce qu'on appelle le chaos testing. C'est-à-dire qu'on va rejouer ces éléments-là un petit peu à la manière aléatoire, mais ça nous donne toujours une bonne idée de la régression systémique de nos releases, d'accord ? Donc là, tu te rends compte que finalement, avec peut-être l'hypothèse a légèrement varié parce que tu la vois à différents niveaux, mais tu peux appliquer le même raisonnement et la même condition pour apprendre à différents niveaux, vraiment. Tu as un niveau très code, tu as un niveau opérationnel. Est-ce que en fait, on a une alerte ? Parce que c'est bien joli de dire que ça a pété, voilà, mais on s'en en sert à rien. Et peut-être que c'est important qu'on le sache. Et puis, on a purement, je n'ai pas envie de dire business parce que ça sonne toujours un peu ingrat là-dedans, mais expérience utilisateur, qui est quand même la notion fondatrice du SRE, c'est de dire, clairement, là, on n'a pas pu faire cette opération-là et l'utilisateur, il en a souffert. Et on n'a rien pour, à part un message d'erreur qui lui dit, ça a pété, on n'a rien. Et c'est quand même pas une belle expérience utilisateur. Voilà, donc, encore une fois, et c'est ça qui est un peu problématique avec cette nouvelle, avec Chaos Engineering, c'est que je n'ai pas d'autre réponse à apporter que ça dépend, que le contexte est important.
Ouais, mais j'ai déjà une très belle réponse parce que de mon point de vue, je comprends bien une chose, c'est qu'on fait une première expérimentation et puis on se rend compte que telle chose était mal monitorée, telle chose ne remontait pas d'alarme. On a parlé par exemple de cette permission sur S3, on va peut-être améliorer le code en disant il faut faire plusieurs retries parce que ça peut être juste que le service n'était pas disponible à ce moment-là, mais ça peut être aussi une erreur humaine derrière de quelque chose qui était mal codé. Dans ce cas-là, on va se dire attention, ça peut arriver, donc ayons une alerte là-dessus si jamais au bout de 3 retries, ça ne fonctionne toujours pas. Donc on connaît mieux notre système, on améliore notre code et on améliore aussi les outils qui nous permettent de monitorer le système. Donc c'est déjà sur une seule expérimentation un très bel apport.
Oui.
Toi donc tu travailles pour Chaos IQ.
Mm-hmm.
Et Chaos IQ donc se base sur le Chaos Toolkit.
Oui.
Qu'est-ce qui manque à Chaos Toolkit pour en faire qu'est-ce que tu as jugé qui manquait dans Chaos Toolkit et que tu as ajouté pour en faire Chaos IQ?
Alors, notre philosophie, c'est toujours un peu délicat tout ça, parce qu'on pourrait penser que toute mon argumentation amène à Chaos IQ, mais en fait, nous, depuis le début de Chaos Toolkit, parce qu'on a démarré Chaos Toolkit bien avant Chaos IQ, c'est de se dire, Chaos Toolkit doit être le plus riche et savant, et capable, pas savant, parce que l'intelligence, pour nous, elle n'est pas dans l'outil, elle est dans l'être humain. Mais en tout cas, capable au possible. C'est-à-dire qu'on n'a aucune envie de restreindre en se disant ça va être commercial. Donc Chaos Toolkit, pour nous, son succès, ça sera plus, il va être capable de faire de choses qui sont pertinentes dans son domaine, mieux ça sera. Et si Chaos IQ ne fonctionne pas, mais Chaos Toolkit continue sa petite vie, ça sera un succès malgré tout. Amer peut-être, mais un succès quand même. On sera très content. Donc je n'ai pas l'intention de lâcher Chaos Toolkit du tout. Mais ce qu'on s'est rendu compte avec Chaos IQ, c'est qu'à un moment donné, on vient toujours d'ailleurs vers nous, les entreprises nous disent, voilà, moi, mes personnes utilisent Chaos Toolkit. Par contre, j'ai besoin maintenant de pérenniser ça. Donc, ça peut aller du simple, j'ai besoin d'en avoir un interlocuteur, support, enfin, en tout cas, j'ai besoin d'acheter quelque chose parce que moi, je peux pas, ça devient central. Je ne préfère pas les citer, mais on a certains utilisateurs et clients qui nous disent, toute notre architecture de résilience, elle est autour de Chaos Toolkit. Donc, on a besoin que vous soyez là. Et on s'est toujours dit, ça va être assez peut-être intéressant, enfin, bizarre comme réflexion, mais on s'est toujours dit, quelqu'un pourrait arriver et refaire le Chaos Toolkit ou nous dépasser avec l'outillage. En tant que business, on ne peut pas se baser sur purement on est les gars derrière l'outil. Qu'est-ce qu'on doit apporter de supplémentaire que Chaos Toolkit ne pourra jamais apporter parce que ce n'est pas son objectif et qui soit valorisable et valorisant malgré tout dans la discipline. Donc Chaos IQ est énormément basé sur l'aspect reliability et plateforme. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au bout d'un moment, on a une flotte de Chaos Toolkit qui tourne. Ces Chaos Toolkit, en ayant une flotte, commencent à avoir des challenges. Typiquement, on veut pouvoir indiquer que deux expériences sur un ne puissent pas impacter le même endroit dans le système. Parce que sinon, ce n'est pas lire. Voilà. Et ça devient compliqué. On a, par exemple, des clients qui nous disent, nous, on a besoin d'arrêter toute expérimentation quand on est sous une attaque, je préfère encore pas nommer, mais on a un client qui est souvent sous attaque de DDoS, donc déni de service, et qui nous dit, quand on détecte un déni de service, on doit arrêter toutes les expérimentations Chaos Engineering. Donc, en fait, là où Chaos IQ apporte une réponse, c'est plutôt dans l'aspect plateformisation, entre guillemets, du Chaos Toolkit. Même si Chaos Toolkit en soi, même si c'est qu'un petit outil, est une plateforme, vu toutes ses extensions aussi, est capable de créer des expérimentations aussi riches et variées qu'on le souhaite. Le management, entre guillemets, de cette flotte, soit vous le faites à la main, parce que c'est un choix, vous n'achetez pas les outils, ça arrive, hein, on a des entreprises qui nous disent « nous, on ne paye pas ». Ok, c'est un choix personnel, c'est un choix d'entreprise. Soit vous arrivez, et puis effectivement, on a cette solution. Mais on est allé encore plus loin dans la réflexion, on s'est dit « ça ne suffit pas, ce n'est pas vraiment ce qu'on veut être ». C'est-à-dire que si on est purement un outil de management, bon, ok, c'est utile, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. En fait, Chaos IQ est tout dans l'idée de la pratique de la fiabilité. C'est-à-dire qu'au final, nous, on est là, peut-être qu'on est un peu rêveur, mais notre objectif, c'est de changer l'industrie. De telle manière que, comme le DevOps a changé, parce qu'effectivement, plein de gens vont dire, oui, mais le DevOps, c'est mal fait, il est dévoyé, certes, mais il a eu un impact positif quand même dans l'ensemble des cas. Et nous, on a cette idée-là avec Chaos IQ de dire la fiabilité, c'est pas quelque chose qu'on fait par-dessus la jambe. C'est, pour certaines entreprises aujourd'hui, ne pas être fiable est plus coûteux que ne pas sortir une nouvelle fonctionnalité. Parce que vous perdez bien plus si votre système, les gens, il y a une volatilité tellement énorme de la part de vos clients que vous ne pouvez pas vous permettre ça. Et donc, en fait, on est dans cette idée, ça veut dire qu'il faut pratiquer. Vous ne pouvez pas juste tout ce qu'on a décrit avant. C'est intéressant, mais c'est une pratique. Le SLO, le SRI, le SRE, le SLI, tout ça, il faut le pratiquer. Et quand je dis pratiquer, c'est le pratiquer comme vous pratiquez l'agilité. Alors, c'est des termes qui, vu notre audience, ça va sans doute faire sourire parce que beaucoup de gens, voilà, ça ne marche pas dans beaucoup d'entreprises. Mais c'est la même attitude, encore une fois, c'est de se dire comment on s'améliore en tant qu'industrie, comment on s'améliore en tant qu'individu, comment on passe la quatrième, si le DevOps était la troisième, comment on passe la quatrième pour que notre industrie avance et se solidifie, se professionnalise, parce qu'on est finalement assez jeune encore, dans tout notre, c'est encore assez artisanal tout ça. Et donc pour nous, la pratique de la fiabilité, de la reliability, c'est de se dire, on doit pratiquer au quotidien, on doit pratiquer parce que c'est la seule façon de répondre à ce que je disais au tout départ, à l'incertitude. Si vous ne pratiquez pas, on a vu, par exemple, des cas où ça ne marche pas. On a vu une fois quelqu'un qui vient dire « Ah, moi, Chaos Engineering, je l'ai fait. » On l'a fait une fois, on a découvert un problème et voilà, on a corrigé le problème, c'est fini. Et donc, ton système, il n'a pas changé depuis. Non, si, il a changé. Et en fait, c'est continuel. On peut pas… Moi, je considère qu'un système, c'est un peu c'est quelque chose de vivant. Alors, pas conscient, mais vivant au sens où, pour moi, aujourd'hui, un système, ce n'est pas quelque chose de figé, ce n'est pas une pyramide, c'est vraiment… Je vais prendre une image, mais un système, c'est comme les lampes à lave. ça bouge tout le temps. Voilà, c'est ça. Et on ne contrôle pas tous les paramètres. La seule chose qu'on peut faire, c'est pratiquer cette notion qu'on peut se préparer. On a les outillages aujourd'hui, on a les compétences. Et qu'en faisant ça, on fera des choix bien meilleurs. Et pas seulement des choix bien meilleurs au sens correction, mais des choix aussi être capable de dire « Ouh là là, mais en fait, on ne s'est pas rendu compte, mais… » On ne répond pas aux besoins qui étaient nécessaires. En fait, on est en train de blinder un truc, on est en train de construire une tour d'ivoire qui n'est pas la bonne. Et plus vous êtes capable de répondre aux changements, plus vos équipes vont être capables aussi de changer parfois de direction dans votre business, de direction complète, de dire « Ah ouais, ouh, on a des preuves maintenant que c'est pas, de toute façon, on ne construit pas ce qu'il faut. » Donc, cette pratique de la reliability, c'est ce que Chaos IQ essaie de fournir. Alors, on a l'aspect plateformisation de Chaos Toolkit, c'est-à-dire que vous voyez ce qui se passe, vous êtes capable de contrôler avec ce qu'on appelle les safeguards, c'est-à-dire dire « C'est vous qui venez dire, je vais aller interroger quelque chose dans mon système, mais je vais le renseigner dans Chaos IQ. » Et ce quelque chose, s'il répond vrai, hein, je schématise, ou faux, s'il répond faux, à ce moment-là, Chaos IQ doit alerter et prévenir l'ensemble des Chaos Toolkit dont il a conscience et leur dire stop. Et en fait, ça se fait en fait, c'est assez intéressant parce que c'est les Chaos Toolkit qui demandent s'ils peuvent continuer. La raison, c'est que contrairement à Gremlin qui nécessite, par exemple, un point d'entrée chez vous pour faire du push, nous, on ne fait pas ça pour des raisons de sécurité. On n'ouvre pas de port chez vous. Par contre, les Chaos Toolkit font un appel à Chaos IQ, font du polling. Mais ça vous permet de mieux contrôler l'information qui rentre et qui sort. Mais l'idée, c'est ça. Les Chaos Toolkit vont à un moment donné dire « Est-ce que je peux continuer ?» Et si le safeguard a dit non, il s'arrête. Après, il y a tout l'aspect dashboard, il y a tout l'aspect visualisation, il y a l'aspect intégration pour voir un peu ce qui se passe, tous ces éléments qu'on s'attend probablement sur une plateforme sur lesquels on travaille et qui sont là. Mais l'essentiel pour nous, c'est que ce qu'on veut, c'est mettre l'individu au centre de la table et dire « ça commence par de la pratique, de l'amélioration ». Je n'ose pas utiliser l'amélioration continue parce qu'il y a des termes qui sont tellement dévoyés dans notre industrie, mais de l'amélioration en tout cas, pour que l'ensemble de la chaîne systémiquement soit meilleur en fait, soit plus apte à réagir aux conditions de turbulence. Et c'est sur ça que fondamentalement Chaos IQ se situe. Alors ça passe par, je termine là-dessus, ça passe par exemple ce qu'on appelle la reconnaissance de pratiques, ça passe par ce qu'on appelle des missions, c'est-à-dire être capable de dire, on vous situe dans des cas assez archétypes, mais qui représentent des cas réels, et puis on va expérimenter déjà localement, en sandbox peut-être, ou contre un outil de développement, et puis après on va vous accompagner, vous allez prendre ce que vous avez appris, puis vous allez l'appliquer chez vous. Donc l'idée, c'est, parce que souvent on arrive vers nous, on nous dit « ouais, mais par quoi je commence ?» Je ne sais pas où commencer en fait. Donc Chaos IQ n'a pas cette compétence de vous dire « votre système, sinon ce serait du consulting ». Donc on ne vient pas faire du consulting en vous disant « votre système, il est chou là ou là ». Par contre, on essaye de dire « voilà ce qu'on voit dans l'industrie, voilà ce qui est pertinent, essayez ça, commencez par ça ». Et donc on va offrir un catalogue d'expérimentes qui sont utilisables, ce genre de choses. Voilà, on est vraiment dans cette idée, on veut que l'industrie s'améliore. Et on veut que les individus prennent goût à la fiabilité. Et les développeurs prennent goût à la fiabilité, prennent goût à se dire, c'est pas juste coder, c'est que ça fonctionne et que je comprends comment ça fonctionne dans un ensemble plus grand que ma petite machine. Pour d'où je viens, moi, pour ça, c'est que je suis développeur à la base et je suis toujours développeur, mais essentiellement, pour des raisons parfois de j'ai besoin de manger, moi, mon premier boulot, c'était faire du support en Angleterre. Et ça a été ultra intéressant de voir un client venir, ça marche pas, et je suis emmerdé parce que j'ai besoin que ça marche. Ça a été ma première, finalement, mise en relation avec, ce qu'on code, peut-être que des fois, il y a un souci pour le client, quoi. Qu'on peut pas juste célébrer le fait qu'on a fait une nouvelle release, ouais, mais si on a pété quelque chose, c'est pas cool, quoi. Après, j'ai fait du test de performance et de charge, et là, c'était super intéressant de voir deux aspects, l'aspect systémique. J'ai des anecdotes là-dessus qui sont assez marrantes, là où j'étais. Et puis, l'aspect aussi, les utilisateurs venaient vers vous en disant « Dites-moi ce que je dois tester en performance. » Mais non, c'est ton programme, c'est ton application, c'est à toi de me dire ce qui compte pour toi. Ça, c'était il y a 15 ans. Hein. Qu'est-ce qui compte pour toi ? Oh, je sais pas. Puis en creusant, on se rend compte, parce que c'était souvent des services internes à une grosse entreprise, moi, grosso modo, je sais que si j'ai réussi à passer le lundi matin où l'ensemble de l'entreprise se log dans l'application, après, ça se lisse, en fait. Donc, je n'ai pas trop de problèmes de charge. C'est ça qu'on va tester. Si on passe ça, on sait que derrière, on est quand même plutôt tranquille. Mais c'était de mettre les gens, les responsables des projets, face à ce besoin de dire « Mais pourquoi tu ne te poses pas cette question-là, en fait ?» C'est essentiel, tu ne peux pas venir dire… C'est une responsabilité de quelqu'un d'autre. Non, c'est ta responsabilité de dire, moi, j'ai ce niveau d'exigence. J'ai besoin que ça fasse ça, ce niveau de qualité. Et cette longue démarche avec le DevOps, j'ai été dans des startups où effectivement, malheureusement, on n'avait pas la maturité. Ce n'est pas une faute de quelqu'un, ce n'était pas la maturité. Puis dans une startup, on essaie déjà de coder quelque chose avant que ça soit fiable. Ou parfois, on essaie d'aller dans l'autre sens. On veut que ça soit fiable à échelle de Facebook avant d'avoir quoi que ce soit, mais bon, soit. Voilà, c'est tout ça qui m'a amené à me dire, mais il y a besoin, certes, d'un outil, ça c'est le Chaos Toolkit, mais aussi que les gens pratiquent, en fait, et qu'il y a un goût pour ça, qu'il y a un goût pour la pratique. C'est pas... Moi, ça, aujourd'hui, bien que je sois développeur, je suis plus passionné par l'aspect opérationnel et me dire mon service, il a répondu présent quand j'avais besoin, que par le code lui-même, en fait. Le code, c'est la partie simple.
Alors, c'est d'autant plus vrai aujourd'hui où... On a des composants qui changent de partout et qui sont interconnectés que ce qu'était il y a 15 ans. Parce que j'imagine que aujourd'hui, on est encore plus dans cette incertitude dont tu parles. Parce qu'on a des composants, on va aller chercher des API ici, on va aller taper des systèmes qui sont... on sait plus où ça tourne, on sait plus ce que ça... exactement de toutes nos dépendances. Et donc, l'incertitude où avant, on avait peut-être notre application, notre base de données, entre les deux, on savait très bien ce qui se passait. On pouvait, d'une certaine manière, se dire qu'on pouvait bien comprendre toutes les interactions qu'il y avait entre les deux. Aujourd'hui, ça devient tellement complexe que on ne peut que partir de ce postulat de l'incertitude. Et pourtant, il y a 15 ans, je me rappelle très bien avoir eu des cas très complexes aussi de résolution d'incidents aussi, hein.
Juste pour finir sur ça, je voudrais quand même indiquer quelque chose. J'ai complètement conscience de la complexité de... Ce n'est pas quelque chose qui va se mettre du jour au lendemain. Ça va prendre du temps et... parce qu'il y a une prise de conscience et ensuite, cette complexité, elle existe. Point. Elle existe. Je ne voudrais pas non plus qu'on croie, par exemple, que parce que nous, on a compris ça, pour dire où on en est, Chaos IQ a toujours ces problèmes-là. On a toujours les mêmes problèmes en interne. Alors, les mêmes, ce n'est pas les mêmes. On travaille, c'est ça la différence, c'est qu'on choisit de les adresser. Mais ils existent toujours, cette incertitude, elle existe et elle dépassera de toute façon notre capacité à trouver tous les problèmes. Encore une fois, on ne cherche pas à contrôler l'ensemble de la problématique, on se dit simplement, est-ce qu'on peut devenir meilleur en pratiquant à les détecter, à les explorer, à y répondre, voilà. Est-ce qu'on peut rendre nos vies un peu plus agréables, en tout cas plus faciles, parce qu'on pratique? Mais je voudrais surtout que l'ensemble des auditeurs comprennent bien, on a aussi ces problèmes. On n'est pas, voilà, on y fait face comme on peut.
Ok, Sylvain, merci beaucoup. Je vais inviter tous les auditeurs à embrasser l'incertitude, du coup.
C'est la seule façon d'avancer.
Merci beaucoup.
Merci, Stéphane. Merci beaucoup.
Retrouvez Sylvain sur Twitter, @lawash et ChaosIQ sur chaosiq.io. Vous avez aimé cet épisode? Dites-le autour de vous, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts pour lui donner plus de visibilité. À bientôt !